Colossiens 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui.
Prions. Père, nous te demandons d'ouvrir notre cœur à ta parole pour recevoir ce que tu veux nous dire ce matin par elle. Amen. Amen. Franchement, là, tu exagères. Déjà, je fais un gros effort pour me sortir du lit le dimanche matin pour venir au culte. Et là, tu dis que je dois trouver encore du temps pour rencontrer d'autres chrétiens dans la semaine. C'est pas réaliste. Pourquoi c'est nécessaire? Personnellement, le culte me suffit. Dimanche dernier, on s'est posé la question « Pourquoi assister au culte ?» Et nous avons vu, Hébreux chapitre 10, que les chrétiens doivent s'encourager les uns les autres à l'amour et à la pratique du bien. Et l'auteur disait que cela aura lieu quand les chrétiens se rencontrent. Et le culte du dimanche matin, c'est un moment hebdomadaire où toute l'église locale peut se rassembler pour chanter, pour être enseigné de la Bible, pour prier ensemble, pour partager le repas du Seigneur. Et c'est important. Mais aujourd'hui, je veux partir d'une question très simple. Est-ce que le culte tout seul suffit pour une bonne vie d'église? Si les chrétiens d'un lieu particulier ne faisaient que rencontrer une fois par semaine le dimanche matin, qu'est-ce qui le manquerait? Est-ce que le culte de dimanche, tout seul, est-il suffisant pour accomplir tout ce que Dieu veut faire dans cette communauté de croyants? Alors, imaginez quelqu'un qui ne mange que du pain, matin, midi, soir, que du pain. Alors, le pain, c'est super. Ça nourrit, ça donne l'énergie. Mais si on ne mangeait que du pain, ben, le corps ne recevrait pas tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé. Le pain ne peut pas satisfaire tous nos besoins corporels. Et de la même manière, le culte du dimanche, aussi bien soit-il, ne peut pas satisfaire à tous les besoins d'une communauté de croyants. Alors pourquoi? Pourquoi? Regardons ce que l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, et ça reflète ce que nous avons déjà entendu dans l'épître aux Romains, le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. On dit comme un corps avec beaucoup d'organes, les chrétiens forment un corps qui est l'Église. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change quand on devient chrétien, quand on met sa confiance dans la mort de Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés et en sa résurrection. Quand on croit cela, le Saint-Esprit nous intègre dans ce corps. Alors, on ne peut pas le voir, mais c'est une réalité spirituelle. Et ce passage veut dire aussi que si on n'est pas chrétien, si on n'a pas encore mis sa confiance en Jésus, alors on ne fait pas encore partie de ce corps. Quel que soit votre niveau de participation dans l'église locale, on peut venir à tous les cultes, on peut rendre service sur le plan pratique, on peut donner de l'argent, mais ce n'est pas ça qui vous intègre dans le corps. Parce que ce qui fait que quelqu'un fasse partie de ce corps, c'est la foi en Jésus. Mais ici en 1 Corinthiens, Paul il utilise cette image de l'Église comme un corps pour tirer les conséquences pour les chrétiens. Paul dit, puisque les chrétiens sont membres d'un seul corps, ils sont unis fortement les uns aux autres. Puisque les chrétiens font partie d'un corps, les chrétiens sont responsables les uns des autres. Et puisque les chrétiens font partie d'un seul corps, ils dépendent les uns des autres. Souvent, on est plutôt individualiste. On aime l'idée qu'on peut se débrouiller très bien par nous-mêmes. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais l'image biblique du corps, pour l'Église, c'est complètement le contraire. Les chrétiens ont besoin les uns des autres. Ils dépendent les uns des autres. Et Dieu veut que l'Église soit ainsi. C'est son plan, son projet pour l'Église. Alors comment cette image de l'Église comme un corps nous aide à voir que le culte tout seul ne suffit pas pour maintenir une saine vie d'Église? Pensez à ce qui se passe dans le corps. Il y a plein d'interactions entre les différentes parties. Et cette image du corps suggère qu'il doit y avoir entre les chrétiens plein d'interactions les uns avec les autres, entre les membres d'une église locale. Et c'est ce que nous trouvons ailleurs dans le Nouveau Testament. Écoutez, juste quelques versets sur ce que les chrétiens peuvent faire les uns aux autres, les uns pour les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Romains 14. Apprenez les uns des autres. Romains 15. Prenez soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12. Servez-vous les uns les autres. Galates 5. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Colossiens 3. Encouragez-vous les uns les autres. Hébreux 10. Et ce ne sont qu'une partie de ces exhortations les uns les autres que nous avons dans le Nouveau Testament. Ma question c'est, pendant 2 heures le dimanche matin, est-il possible de faire tout cela? Je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas faire toutes ces choses-là. Et pour une simple raison, que ces interactions les uns les autres nécessitent des relations authentiques, sincères, des relations approfondies entre les croyants. Et le culte en lui-même ne donne pas l'occasion de créer et d'approfondir ces relations. Alors, je m'explique. On sait qu'il y a des choses qu'on serait prêt à discuter avec nos proches avec nos amis proches, mais on ne serait pas à l'aise de discuter de ces choses avec n'importe qui. Et notre vie de foi, c'est quelque chose qui touche à notre vie intime, c'est personnel, nos luttes, nos problèmes, nos difficultés, nos fautes, nos péchés, nos doutes. On ne serait pas à l'aise de parler honnêtement de ces choses, sauf avec les gens avec qui on est en confiance, les gens qui nous connaissent bien, les gens qu'on connaît bien. Mais comment va-t-on cultiver ce type de relation entre les membres de l'Église si on ne se voit que au moment du culte? Pensez à la dernière fois que vous êtes allé au cinéma. D'accord ? Une salle de cinéma, beaucoup de gens, au même endroit, ils sont assis à côté les uns des autres, ils regardent le même film, et peut-être que le film c'est super, mais ce n'est pas un moment où ils vont faire connaissance les uns aux autres. Même avec les gens avec qui je suis allé au cinéma, ce n'est pas là que je vais approfondir mes amitiés avec eux. Et si tout ce que je faisais avec mes amis, c'était regarder des films au cinéma, et rien d'autre, ben je pense que notre amitié, ce serait assez superficielle, parce qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire connaissance. Alors, j'hésite à comparer le culte du dimanche à une salle de cinéma. Je pense que vous pouvez quand même voir les similarités. Pendant le culte, les occasions pour l'interaction entre les membres sont quand même assez limitées. On est plutôt focalisé sur ce qui se passe devant. Et ce n'est pas une critique du culte. C'est super qu'on ait ce moment pour nous rassembler tous. Mais ce n'est pas pendant le culte lui-même qu'on va approfondir les relations les uns avec les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai dit que le moment de café, de discussion après le culte est si précieux, et je considère que ça fait partie de notre temps de rencontre. Et cela m'encourage quand je vois les gens qui en profitent pleinement. Donc, nous avons vu que l'Église est comme un corps qui est censé avoir plein d'interactions entre les membres, et ces interactions les uns les autres demandent des relations de qualité. Parce qu'on ne sera pas prêt à partager notre vie intime avec des inconnus. Et que ces relations ne se créeront pas tout seul juste parce qu'on est assis à côté de quelqu'un pendant le culte. On a besoin de passer du temps avec les gens pour faire connaissance, pour créer ces liens d'amitié et de confiance. Et donc j'espère que vous verrez qu'il y a un danger qu'on se trompe par rapport à l'Église. Si on se dit, moi je suis impliqué à l'Église, je participe à la vie de l'Église, parce qu'on est là tous les dimanches, parce qu'on a une responsabilité particulière, il se peut que volontairement ou involontairement, on garde à distance, garde nos distances par rapport aux autres, et on se contente des relations assez superficielles avec les gens de l'Église, en imaginant qu'en fait, on connaît des gens, alors qu'en réalité, on ne les connaît à peine. Ou peut-être eux, ils ne connaissent pas bien. Peut-être on est assis à côté de quelqu'un tous les dimanches, mais on ne sait pas quelle est sa préoccupation principale en ce moment. On ne sait pas ce qu'on peut prier pour cette personne, et cette personne ne sait pas comment toi, t'encourager toi dans ta foi. Alors, peut-être que vous entendez tout ça et vous dites, mais là, franchement, c'est irréaliste. Tu veux dire que je suis censé avoir des relations profondes avec chaque personne dans l'Église? Non, mais c'est impossible. Ça n'arrivera jamais. Rien que l'idée, ça me fait peur. Et de toute façon, je suis quelqu'un d'introverti. Donc, je vais pas aller spontanément vers les autres. Tu comprends? Alors, comprenez-moi bien. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on soit le meilleur ami de quelqu'un, de tous les autres à l'Église, ce n'est pas possible. Mais on doit chercher à cultiver des relations, approfondir des relations de qualité avec quelques-uns. Quelques-uns, un petit nombre. Et là, je pense que l'exemple de Jésus nous aide beaucoup. Jésus est venu avec une mission envers le monde entier. Mais avec qui a-t-il passé son temps? Parfois, il est vrai, il a prêché aux foules, un grand nombre de personnes. Mais le reste du temps, il était avec ses disciples. Et même parmi ses disciples, il en a choisi 12. Ces personnes avec qui il passait le plus clair de son temps, les 12. Et même parmi les 12, il y avait 3, Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime. Jésus, il s'est limité volontairement à un petit nombre de personnes en qui il a investi la plupart de son temps. Et nous alors? Et nous? Est-ce qu'il y a 2-3 personnes à l'Église qu'on connaît bien et qui nous connaissent bien? Voici quelques questions qu'on peut se poser pour nous donner une idée. Avec qui suis-je assez en confiance que je pourrais admettre mes difficultés à prier ou à lire la Bible? Vers qui pourrais-je me tourner si je passais par un moment de gros doute? Je remettais en question la bonté de Dieu ou son existence même. Vers qui pourrais-je tourner pour discuter de cela? Ou bien, qui me connaît suffisamment qu'il saurait tirer la sonnette d'alarme si jamais il me voyait commencer à m'éloigner de Dieu ou à faire un peu n'importe quoi dans ma vie de tous les jours? Est-ce que j'ai à l'esprit 2 ou 3 personnes qui sont suffisamment proches, avec qui je suis suffisamment honnête pour que on pourrait veiller les uns sur les autres? Vous savez, quand les gens font de l'escalade, que ce soit à l'intérieur dans un centre ou sur un vrai rocher, il y a quelqu'un qui grimpe, qui porte un harnais attaché à une corde, et il y a quelqu'un en bas qui tient la corde. Vous avez vu ça peut-être à la télé ou en vrai. Hein. Si la personne qui grimpe fait une erreur, si lâche au mauvais moment ou commence à tomber, c'est la personne en bas qui saisit la corde et qui empêche la personne de chuter pour éviter un accident. Alors même si cela n'arrive que très rarement, la personne qui grimpe est quand même rassurée de savoir qu'il y a quelqu'un en bas qui tient la corde, quelqu'un qui veille sur elle. Au cas où. Et j'ose dire qu'être chrétien, c'est un peu comme une escalade. La vie n'est pas facile, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veille sur moi et qui me tient la corde? Quelqu'un qui m'est assez proche et qui pourrait, au cas où, intervenir si j'ai commencé à déraper. Est-ce qu'il y a des personnes qui me font confiance à faire cela pour elles? Est-ce que je pourrais avoir ce rôle pour quelqu'un? L'Église est comme un corps, et afin que Dieu accomplisse tout ce qu'il souhaite faire en nous et à travers nous, nous devons chercher à cultiver ces relations authentiques et sincères, non pas avec tous les membres de l'Église, mais avec quelques-uns, pour que chaque personne, il y ait 2 ou 3 qui connaissent bien, avec qui il y a cette confiance, qui cherche à encourager et être encouragé par ces personnes. Mais comment faire cela? Alors c'est pas un secret, ça commence par passer du temps ensemble. Alors, il y a des groupes que l'Église organise, que ce soit le groupe de femmes après le culte tous les 15 jours, le dimanche, l'étude biblique le mercredi, mais ça pourrait être beaucoup plus informel, simplement inviter quelqu'un à partager un repas ou à prendre un café. Il y a beaucoup de manières que les membres de l'Église peuvent se rencontrer en dehors du culte. Soyons créatifs. Ça pourrait être juste avec une personne, ou deux, ou un petit groupe. Ça pourrait être intégrer un groupe qui existe déjà ou créer un nouveau. Et ces moments vont contribuer à la vie de notre Église, du moment où on se rend compte que le but de ces rencontres, ce n'est pas que faire des amis, bien que l'amitié, ça fait partie, mais de partager notre vie de foi. Nous voulons vraiment vivre l'Évangile ensemble, contribuer chacun à la croissance de l'autre par les dons que Dieu nous a donnés. Et concrètement, comment faire cela lors d'une rencontre? Très simplement, partager notre vie. Paul a dit aux Thessaloniciens qu'il a partagé avec eux non seulement l'Évangile, mais sa vie entière. On peut aimer les autres en s'intéressant à ce qui se passe chez eux, à ce qu'ils font, en étant honnête sur ce qui se passe chez nous. Partager notre vie. Deuxième chose, quand on se rencontre, on peut prier. Ça peut être très simple. Remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, dans la vie de l'autre. Demander son aide pour des situations particulières. Paul en Galates, il parle de porter les fardeaux les uns les autres. Jacques dit que nous devons prier les uns pour les autres. Et quand on prie, on reconnaît que Dieu est dans ces situations et que nous avons besoin de lui. Et troisième chose, pour revenir à ce verset en Colossiens, que la parole de Christ réside, demeure au milieu de nous. Nous pouvons chercher à être façonnés par la parole de Dieu. On peut simplement ouvrir la Bible, lire un passage et en discuter. On peut partager ce qu'on a déjà lu dans la semaine, comment cela nous a aidés, comment cela nous remet en question. Donc, lors de ces rencontres, partageons notre vie, prions les uns pour les autres, ouvrons la parole, partageons la Bible. Pour conclure, rencontrer d'autres chrétiens en dehors du culte, oui, ça va prendre du temps, ça va prendre un peu d'effort, peut-être. Et on pourrait trouver tout un tas de raisons de ne pas le faire. C'est vrai, oui, j'ai une semaine très chargée, je suis très timide, ou les autres gens dans l'église ne sont pas tout à fait comme moi, je serai hors de mon zone de confort. Oui, peut-être, mais je veux vous encourager avec cette image de l'église comme un corps. Les chrétiens sont unis les uns aux autres par leur attachement à Jésus. Oui, dans le corps, nous sommes différents. Dieu l'a voulu ainsi. Mais nous sommes responsables les uns des autres, nous dépendons les uns des autres. Et ça veut dire que les autres dans l'Église sont une bénédiction, sont une richesse que Dieu a placée là pour vous. Et qu'également, si vous êtes chrétien, vous êtes une richesse, une bénédiction pour les autres. Donc, donnons-nous les moyens pour cultiver ces relations où on peut nous servir les uns les autres d'une manière qui va au-delà de ce qu'on peut faire les dimanches matins lors du culte. La bonne nourriture, c'est plus que le pain, et la vie de l'Église est plus que le culte des dimanches. Avec l'aide de Dieu, vivons cette vie du corps pleinement à travers ces différentes rencontres. On va prier. Père, merci pour la beauté de ton Église. Merci car tu l'as décrit dans la Bible, en Apocalypse, à la fin du temps, l'Église, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, paraît comme une épouse pour son époux. Ton projet pour l'Église est beau et nous voulons vivre ce que tu as prévu pour cette vie communautaire, ces différents liens, ces interactions entre les membres, pour ta gloire et pour notre bien. Donc, Père, donne-nous de saisir pleinement ce que c'est d'être, de faire partie d'un corps. Et donne-nous de vouloir cultiver ce petit nombre de relations authentiques et vraies. Les personnes sur qui nous pouvons veiller et qui peuvent veiller sur nous. Nous tenir la corde. Merci, Père, car l'unité dans l'Église, c'est déjà une réalité par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui créons cette unité. Elle est là déjà. Mais donnons-nous de la vivre pleinement. Pour ta gloire, nous te prions. Amen.